Nous sommes le premier vendredi du mois d'octobre, vendredi 7 octobre. Vous êtes à l'écoute de Canal Sud et c'est le vernissage de l'exposition Un printemps chilien. Donc tout le mois d'octobre, vous pouvez voir des photos puisque c'est une exposition photo à quatre mains, à deux personnes. Et c'est Aloé Alvarez qui a initié cette exposition. Et qui, pour cela, a invité Sabine Grépeau pour présenter aussi ses photos. Alors, Aloé, d'où te vient cette idée, mis à part que le Chili t'est quand même quelque chose qui est cher à ton cœur, hein ?
Oui, alors j'ai vécu au Chili du 30 mars 2011 jusqu'au 13 août 2020. Et en fait, dès que je suis arrivée au Chili, j'ai vu le mouvement. En 2019, il y a eu un grand mouvement révolte sociale. Et j'ai vivé à La Serena, pas dans la capitale.
Et Serena, c'est quoi ?
C'est une ville dans le nord du Chili, dans le petit nord qu'ils appellent, parce que le Chili, c'est tout en long. Mm-hmm. Et de temps en temps, j'ai pris des photos avec un téléphone portable. Et quand je suis venue ici, je trouvais que c'était important. Pour moi, c'était important de faire quelque chose. Et donc, j'ai demandé si je pouvais faire une expo ici pour octobre. Ça a été important que ça soit en octobre, pour les 3 ans. Et après, j'ai connu Sabine par les réseaux sociaux, son travail. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, bon voilà, moi je vais faire une expo. Mais c'est vrai que c'est de la région. Et en général, les gens, ils connaissent plus Santiago, qui est la capitale. Et je lui ai dit, bon, ça serait bien que tu viennes, comme ça on montre un peu Santiago, parce que Santiago et la Serena qui est en région, il y a eu deux formes très différentes de vivre le mouvement. Dans la capitale, c'était rester le plus longtemps sur une place, tandis qu'en région, c'était faire des activités, mais faire marcher le plus possible.
Juste, je voulais
faire la manif.
Ah d'accord, oui, sur le temps, d'accord.
Ouais, oui. Okay.
Moi, je voulais juste revenir sur le fait que toi, Aloé, tu as quand même aussi des racines chiliennes.
Oui.
Voilà, donc pour toi, le Chili te parle différemment, sûrement que pour Sabine, où toi, tu n'as pas de racines chiliennes.
Non, moi, je n'ai pas de racines chiliennes, mais j'ai vécu à peu près autant au Chili. J'ai vécu pendant 8 ans, ouais, entre 2012 et 2020. Moi, je suis de
à peu
Lyon
près,
à la base.
Presque les mêmes périodes.
Ouais, ouais. Quasiment, ouais.
Vous auriez pu vous rencontrer.
Bah oui. Bah non, du coup, entre La Serena et Santiago.
Peut-être sur Santiago, on a dû se voir dans des événements, mais ouais. On n'a pas fait tilt. Et après, on est plutôt prise. Moi, j'étais plutôt dans l'immersion, avec des organisations sociales, plutôt avec des Chiliens qu'avec des Français. Mm-hmm. Parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de Français, même je ne connais pas de Français qui était dans la mobilisation.
D'accord.
Donc j'étais plutôt avec des Chiliens.
Oui, parce que c'est les Chiliens qui ont bougé et qui se sont révoltés et qui continuent d'ailleurs à bouger, quoi. Et c'est ça que tu as eu envie de partager ici, nous présenter ce pays. Alors tu as présenté une carte du Chili, hein, qui est une bande étroite le long de la cordillère des Andes et contre l'océan. Et justement, quand tu nous expliques le nord, c'est à combien, Serena de Santiago, par exemple ?
En bus, c'est 6-7 heures.
Ouais.
Ah oui, c'est des sacrées distances quand
on
même.
On parle en heures de bus au Chili, on ne connaît pas les kilomètres.
Ils prennent pas, il n'y a pas de train. Voilà. Et en fait, au Chili, comme c'est tout en long, on va soit dans le nord, soit dans le sud.
Ok. Ouais.
Ou soit dans l'extrême sud, soit dans l'extrême nord.
D'accord.
Et c'est pour ça que je dis La Serena, c'est le petit nord. Uh-huh. Parce qu'après, tu as le grand nord où tu as un climat qui est aussi très différent.
D'accord.
Et beaucoup de choses qui sont un peu différentes.
Uh-huh. Ouais. Il faut dire que d'un côté, il y a la montagne, de l'autre, l'océan.
Voilà. D'un côté, la montagne. À l'ouest, Oui, c'est... Il y a l'océan, à l'est, il y a la cordillère des Andes, ouais. Dans le sud-sud, c'est l'Antarctique,
ouais.
Et dans le nord, la Patagonie, et dans le nord-nord, ben, c'est le désert.
Voilà, désert d'Atacama.
Ah, c'est le désert qui touche, maintenant qui touche à rien, ou qui...
Si, il fait... Fait
partie du Chili, hein, le désert d'Atacama est le désert le plus aride du monde, et au nord du Chili, ouais.
Et il y a beaucoup d'observatoires chiliens. Oui.
Et il y a beaucoup de monde au Chili, la population, c'est combien ? C'est
17 millions ? 18 millions ?
Alors, normalement, il devrait y avoir 17 millions. Je dis normalement parce que comme au Chili, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de décribilisation. Je ne sais pas si on dit comme ça. Bon, il y a beaucoup d'institutions qui devaient normalement donner des bons chiffres. Et par exemple, pour le recensement, Et ils se sont un peu trompés, on va dire.
Un peu de désinformation, on va dire. Oui,
voilà, ça a été... Donc, normalement, c'est 17 millions.
Oui.
Dans la capitale, c'est là où il y a le plus grand, c'est 7 millions. Après, il y a Valparaíso, je crois qu'il y a 500.
Oui, voilà. Presque un million, je pense, dans la région de Valparaíso. Ouais.
Et après, c'est Concepción, La Serena et tout le reste, tout le long. Et c'est très long.
Et on a eu des manifestations, plus d'un million de personnes à Santiago.
Oui,
en
tout cas,
ce qui est énorme pour la population. C'est terrible. Ah, ouais. Oui, ça c'est sûr. Et je vois que dans la présentation de ce printemps chilien, vous avez eu envie de revenir sur cette histoire un peu du Chili. Moi, je pense quand même que les auditrices, les auditeurs de Canal Sud, quand ils entendent Chili, résonne le mot Pinochet. Ça, je pense que ça, c'est quand même une réalité politique qui a traversé toutes les frontières. Mmh. Et donc, cette brève histoire, vous la commencez justement en 73 avec l'histoire de Pinochet.
Oui. Enfin, même 70 avec l'élection de Salvador Allende, qui était le président socialiste élu au Chili. Je fais un petit peu mon speech de la brève histoire subjective du Chili. Donc, 73, il y a eu un coup d'État de Pinochet, qui était un ministre de Allende, qui a été aidé par les États-Unis pour faire son coup d'État. Allende est mort. Il a été tué. Là, on se pose encore la question de savoir si on a le droit de dire ça ou pas, mais donc voilà, 73,
juste une petite aparté, j'ai vu quelque part qu'il circulait une information sur M. Balkany à Paris, dans la région parisienne, et qui a débaptisé un square qui s'appelait Allende, justement, pour l'appeler le square de la mairie.
Ah, bah oui, bah oui.
Ah, j'étais pas au courant de cette info, mais c'est vraiment n'importe quoi.
Ça circule. Ouais. Comme quoi, c'est arrivé jusque ici, ce choix politique. Ouais. Donc, Pinochet avec l'aide des Américains, c'est ça?
Voilà, coup d'État.
Les États-Unis. Les États-Unis. Au Chili aussi, on est en Amérique.
Oui, c'est
Amérique
important.
Du Sud,
oui.
D'accord. États-Unis.
États-Unis.
En plus, gouvernement états-unien.
Oui, la CIA surtout, ouais. Et du coup, la dictature a duré 17 ans, jusqu'en 89. En 80, Pinochet installe une nouvelle constitution, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, au Chili. Voilà, et donc on a un retour à la démocratie en 89 qui se fait sans vraie justice, sans vraie révolution. Les nouveaux gouvernants après 89 sont à peu près les mêmes qu'avant. Sebastián Piñera, qui était le président pendant les révoltes, c'est le frère de un des ministres de Pinochet. Donc voilà.
Ils adoptent la méthode douce, on va dire.
Voilà. C'était un des ministres de Pinochet qui, son frère, a mis en place aussi un système de privatisation. Des retraites.
Voilà.
Donc c'est le capitalisme soft qui avance.
Soft.
Alors ça peut être soft du coup.
Non, pas soft. Ouais. Le capitalisme, mais il lui faut un peu une paix sociale à ce capitalisme. Peut-être c'est ça. Donc.
Ouais. Ben, en fait, il y a eu beaucoup de pressions internationales qui sont mises en place dans les années 80. Et en 88, il y a eu un premier, il y a eu un référendum s'il voulait ou pas continuer sous la dictature de Pinochet. Et c'est le non qui a gagné. Mais
Pinochet n'est pas parti.
Non, parce que Pinochet, il s'est mis comme sénateur à vie.
Voilà. Donc il n'était plus
dictateur. Et comme la constitution a continué, c'est-à-dire que tous les organes étaient appartenaient... en fait, c'est vraiment comme la continuité. Soi-disant, il n'y a plus le dictateur, mais pratiquement tout. Donc c'était une sorte de transition. Et pour moi, on est encore dans la transition parce qu'on n'a pas aboli cette constitution.
Et justement, on a cru que là, cet été, ça allait passer et ce n'est pas passé. Ouais. On a même eu, il y avait eu tout un mouvement de solidarité, pensant qu'en effet, le vote serait en faveur de l'abolition de la constitution. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'on nous a dit, plus ou moins, des évangélistes, des gens comme ça qui ont un peu poussé, un peu comme au Brésil aussi, non c'est... par rapport à la droite ou l'extrême droite, parce que c'est quand même la droite et l'extrême droite qui veut garder cette constitution.
Oui. Alors la droite et l'extrême droite, il faut savoir qu'ils ont un gros pouvoir économique au Chili. C'est déjà le Chili déjà
mais dans
tout
les
est
urnes,
privé.
Dans les urnes.
Mais c'est par exemple c'est au niveau de faire croire. En fait, ils jouent beaucoup sur faire croire. Ils possèdent des médias et ils ont fait quelque chose que par exemple en France c'est impensable dans ce comme campagne, c'est-à-dire imprimer des fausses constitutions pour les distribuer aux gens, pour les induire en erreur. Donc des personnes qui n'ont pas l'alphabet, qui ne sont pas politisés vont lire ce document parce que tout le monde en parle, donc ils disent le vote était obligatoire. Donc ils se disent, bon, il faut quand même qu'on se renseigne, et ils croient des absurdités.
Oui, il y a eu de la désinformation à fait importante.
D'ailleurs,
on nous a dit aussi, il y avait la peur, quoi, faire peur aux gens en leur disant, si jamais vous abandonnez cette constitution, il va se passer une catastrophe.
Quoi. Ah, bien sûr, le Venezuela, c'est toujours l'exemple montré.
Au final, ils disaient, on va vous voler vos maisons, hein, vous n'allez plus pouvoir être propriétaire de deux maisons, ou même d'une de votre maison, vous n'allez plus être propriétaire.
Et donc vous avez traversé cette période, mais surtout vous avez accompagné tous ces mouvements sociaux. Donc en fait, ça fait, je dis là, c'était maintenant qu'il y avait le vote de la Constitution, mais c'est le résultat d'une mobilisation sociale très très importante, puisque tu as dit qu'il y avait parfois près d'un million de personnes dans la rue sur un pays qui rencontrait 17 millions, c'est énorme, quoi.
Ouais.
Et c'est là le but. Alors les photos, toi c'est des photos prises à Loué que tu as prises sur ton téléphone.
Voilà, sur le téléphone
sur place, tu étais manifestante, tu participais.
Oui.
Et t'as été un petit peu partout ou c'est que sur une ville tes photos
Non, c'est que sur La Serena et la ville qui est juste à côté, Coquimbo. Mais après, là, j'ai mis des photos, mais c'est un quart de ce qui s'est passé et des photos que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, j'ai fait partie... des personnes qui organisaient les manifs, qui guidaient les manifs, qui organisaient aussi des activités, qui faisaient comme une sorte de coordination.
Parce que c'était intéressant.
La première élection qu'on a eue, parce qu'il y a eu pour arriver.
Puis c'était pas que sur la Constitution. Il y a eu les mouvements des femmes, il y a eu les mouvements des travailleurs. Il y avait plusieurs pôles, disons, de mécontentement qui s'exprimaient, quoi.
Voilà, donc il fallait aussi coordonner tout ça.
Coordonner.
C'est pas grave, on entend moitié français, moitié chilien. Et toi, la même période, tu as vu ces manifs, mais toi, tu étais donc à
Santiago. Moi, j'étais à Santiago. Moi, je suis photographe et du coup, j'ai vu ces manifestations. Alors, je suis sortie aussi manifester, mais surtout, moi, ce que je voulais faire, c'était photographier, témoigner et partager ça aussi avec la France pour montrer aussi ce qui se passait au Chili.
Et à quelle occasion avez-vous décidé d'aller au Chili?
Alors moi, je suis partie...
l'aventure
Oui, voilà. Moi, j'avais un boulot alimentaire à cette époque. Et je travaillais la journée et je sortais le soir aller prendre des photos avec les manifestants. Donc ça a duré entre octobre 2019 et mars 2020. Il y a eu beaucoup de répression policière. J'essaie toujours de le placer parce qu'il y a plus de 600 personnes qui ont perdu un œil au Chili à cause des petites balles qui étaient utilisées par la police. Il y a encore des personnes qui sont en prison maintenant pour avoir brûlé une poubelle ou cassé un banc et qui sont encore en attente de jugement. Donc moi, j'essaie toujours de leur rendre hommage, en tout cas à ces personnes-là qui ont été très présentes dans les manifestations.
Parce que malgré la répression, les gens sortaient.
Oui.
Oui, parce que c'était... on avait tellement peur que la peur est partie. Et en fait, le 18 octobre, la mobilisation a commencé...
Quand tu dis on avait peur, c'était avant, donc sous le régime Pinochet, sous cette
constitution. C'est tout le temps, en fait, c'est quand je parle de la peur, c'est la peur de pas pouvoir finir son mois, de pas avoir assez de sous pour pouvoir juste aller chez le médecin, la peur de pas pouvoir payer ses études... C'est cette peur, c'est la peur de
l'angoisse de ne pas pouvoir vivre. Quoi,
voilà. Et en fait, ce qui a beaucoup le cri très fort qui était, c'était surtout nous, ce qu'on veut, c'est de la dignité. C'était vivre bien, pouvoir se lever le matin, savoir qu'on peut manger, qu'on peut se faire soigner. Voilà. C'est pour ça que la Constitution, qu'elle soit refusée, ça. Je m'en remets toujours pas.
La bagarre n'est pas finie.
Non, ça continue. Il faut savoir qu'au Chili, tous les services publics que nous, on peut connaître en France, sont privatisés. Donc l'éducation, la santé, les retraites, le salaire minimum, c'est à peu près 300 euros.
Et ça, c'est parce que ça a été augmenté.
Ça a été augmenté il n'y a pas très longtemps. Les retraites, en moyenne, c'est 200 euros. Donc en fait, les gens continuent de travailler en étant retraités. Enfin, donc il y avait beaucoup de revendications à ce moment-là, quoi.
Voilà. Et après aussi, le système, comme c'est un système néolibéral, ça renferme les gens dans une sorte d'individualité dans laquelle ils croient que c'est les seuls à avoir ces problèmes. Donc durant les manifs, comme le vendredi, le 18 octobre, il y a eu une très forte répression parce que grâce à des collégiens de 14-15 ans qui ont sauté les barres de métro.
Oui, qui ont franchi le métro.
Voilà, qui ont franchi le métro sans payer. Ah, oui. Parce qu'on leur avait augmenté le prix du ticket. Il y a eu une très forte répression envers eux. Et le lendemain, tout le Chili, on ne s'est pas donné le mot ou quoi, tout le Chili est vraiment sorti dans la rue. Et c'est à partir de là, le 19
solidaire
octobre,
avec les lycéens, quoi.
Voilà, qui a commencé. Et il y a eu toutes les revendications. Et les gens ont commencé à parler entre eux, et ils disaient « Ah, mais oui, ah, mais toi aussi !» et à se rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur merdier.
On va faire une petite pause musicale, puisque c'est... On va écouter le Chili qui chante.
Ah oui,
la révolte.
On écoute Inti Illimani.
Inti Illimani. qui ont été exilés d'ailleurs en Italie pendant je ne sais pas combien de temps, à cause de la dictature.
El Pueblo Unido.
Si. Ah ben oui.
Y en un clamor, mil voces de combate.
ne sera vaincu lorsqu'il est uni. Et en fait, on est le premier vendredi du mois, vous écoutez Canal Sud sur 92.2, et c'est le vernissage d'une exposition photo sur le printemps chilien. Alors, vous dites printemps, mais on s'aperçoit que c'est des années là, hein, puisque ça a commencé en 2019, et qu'à chaque fois, alors, quand on dit le peuple, en effet, il semblerait, d'après ce que vous dites, que les gens se sont auto-organisés, en fait, à la base. C'est pas le gouvernement qui a décidé de faire les référendums au départ, quoi. La Constitution, non. Les gens l'ont gagnée, de oui. vouloir la réformer. C'est pas un choix gouvernemental de dire on va changer la Constitution.
Non.
Et donc, c'est ça que vous essayez de nous montrer, comment les gens... c'est grâce aux mobilisations aussi importantes que ça a fonctionné.
Comment ont-ils imposé, oui, voilà, cette, le fait d'avoir un référendum par le, en descendant dans la rue en...
Alors, le référendum a été décidé, au final, un peu avec des accords politiques, finalement, parce que c'était quand même un appel de la rue.
Mais ça, c'était le officiel.
Il n'y a pas de leader. Oui, oui, oui. Le référendum qui a été voté ensuite... en fait, il y a eu deux référendums au Chili pour la Constitution. Il y a eu un premier référendum qui a été organisé pour ou contre « on change la Constitution de Pinochet ». De quelle manière ? Ça a été voté à 76%, oui, on la change. Suite à ça, il y a une chambre constituante qui a été élue, qui était paritaire, où il y avait un nombre de sièges réservés au peuple autochtone du Chili. Ça a été
paritaire,
inédit.
Quand tu dis, c'est peuple autochtone et...
hommes et femmes. Ça a été inédit dans le monde qu'il y ait une chambre constituante paritaire. Ils ont travaillé pendant un an à écrire un texte, et c'est ce texte-là qui a été rejeté, là, en septembre... 2022.
Je voudrais détailler certains points qu'elle a exprimés, Sabine. C'est en fait en octobre 2019, un mois après, avant que ça soit décidé institutionnellement, il y a le peuple qui en fait, durant toute la manif, au bout d'un moment, en parlant avec les personnes, il y a des travaux qui ont été faits pour justement parler sur ce qui n'allait pas. Et le point, c'était, il faut changer la Constitution. Si la réforme des retraites, même si on a fait une loi du peuple pour avoir une bonne retraite, on la rejette parce qu'on te dit qu'elle est anticonstitutionnelle, c'est qu'il y a un problème dans la Constitution.
Donc là, c'était suite.
Pendant ça, c'est toujours en 2010.
Pendant les manifs, les gens se sont rencontrés, ont discuté.
Voilà.
Et c'est de là qu'est émergée cette idée.
Oui, parce qu'il y avait les manifs, il y avait aussi des activités où les gens se rassemblaient dans la... On pouvait se balader et il y avait partout des gens... Bon, à la Serena... Et dans notre région, où en fait, il y avait des groupes de personnes qui parlaient, qui expliquaient le système de santé, le système de retraite, l'éducation, comment ça existait dans notre monde, que c'était une constitution. Il y avait beaucoup, en fait, d'éducation civique. Mmh. Et du coup, tout le long du Chili, en décembre 2019, il y a eu un premier référendum, justement pour savoir si oui ou non on voulait changer la Constitution.
Et celui-là était auto-organisé. Donc.
Voilà, ouais. Parce qu'il y a le gouvernement électoral a dit non, mais nous, on ne va pas appuyer ce référendum. Et normalement, quand eux, ils appuient, ça organise bien tout, ils donnent les papiers, parce qu'au Chili, on fait un trait pour les élections. Et en fait, c'est les municipalités... Qui, avec la pression, c'est toujours la pression sociale des organisations sociales, qui a mis en place dans la plupart des lieux du Chili des espaces pour voter.
Ils ont contraint les élus à mettre en place ça. Quoi.
Mais il y a des endroits dans le sud du Chili où ils n'ont pas voulu, mais non, mais ils ont quand même fait parce que les organisations ont dit bon, ok, vous ne voulez pas nous aider, nous on va quand même le faire. Et ils l'ont quand même fait. Et après, bon, il y a eu l'accord institutionnel qui s'est mis en place, parce que bien sûr, le changement de la Constitution a été gagné, et avec une assemblée constituante. Et après, il y a eu la partie constitutionnelle. En avril 2020, il devait y avoir un premier référendum, justement, et ça a été décalé. Pour octobre 2020.
C'est assez original parce que je dirais qu'en France, il y avait un mouvement social, on ne nous dirait pas de changer de constitution, on voudrait changer d'homme politique. Or là, ça ne s'est pas basé sur des élections, sur changer de gouvernement, etc. C'est de dire au gouvernement, vous devez faire ceci, en fait. Enfin, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, c'est assez inédit, quoi, parce que...
Après, à ce moment-là aussi, le gouvernement, il se moquait un peu du peuple. Par exemple, comme elle expliquait Sabine, tout est privé. Les systèmes publics et privés. Et par exemple, il y a des endroits qu'on appelle consultorio, C'est dans un...
C'est les hôpitaux publics.
Voilà, des hôpitaux publics. Pour y aller, il faut aller très tôt le matin, faire la queue et attendre des heures. Et juste à ce moment-là, il y avait eu un ministre, on ne parle pas d'un politicien lambda, c'est un ministre, quelqu'un qui a la tête, qui disait « Mais levez-vous plus tôt, vous pourrez faire de la vie sociale dans les hôpitaux publics. » Et donc à chaque fois, il y a eu plein de trucs comme ça de la part du
gouvernement. Voilà. Au Chili, c'est un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine, il me semble. Enfin, les riches sont très riches, vivent dans des quartiers.
C'est ce que tu as dit que quand tu es arrivé, c'est ce qui t'a.
Moi, ça m'a beaucoup frappé, ouais, par rapport à la France.
Et tu pensais que c'était quelque part une normalité de la société, quoi.
Voilà, où les gens étaient habitués, en fait, à ça. Bah, 17 ans de dictature, puis 30 ans, en fait, de pseudo-démocratie. Oui, les gens ont peur, les gens sont habitués à ça, n'ont pas l'impression que ça peut changer.
Et après aussi, par rapport à cette grande inégalité, qui est un peu comme un sablier, ils restent entre eux. C'est-à-dire que les personnes très riches vont rester entre eux, vont s'entraider et ne
mais
pas...
Ça, c'est pas original, ça.
Oui, mais non. Bon, un peu plus...
En tout cas,
nous, on nous parle de communautarisme, voilà. Et le pire des communautarismes, c'est bien c'est les riches qui se protègent entre eux et qui vivent entre eux dans des quartiers spéciaux.
Mais eux, en général, voilà, ceux qui sont riches, c'est des personnes qui sont pinochetistes, oui. C'est aussi des nazis. Et ça, on oublie peut-être de le dire, mais il y a beaucoup de nazis aussi au Chili.
Ce sont des descendants de nazis qui s'étaient expatriés en Chili, c'est ça?
Et aussi durant la dictature de Pinochet, qui ont participé.
D'accord, oui.
Qui ont participé.
Et qui n'ont pas renié leurs idées.
Faut envoyer Poutine.
Voilà.
Et donc, c'est tout cela que vous essayez de nous dire. Alors, dans ton livre, parce qu'on va tout de suite parler du livre, parce que sinon on a très peu de temps là maintenant. Sabine, donc, tu as fait un livre de photos.
Oui.
Pour l'instant, il est tout en espagnol, mais tu as dit que tu nous mettrais peut-être une petite page pour nous traduire.
Traduction.
Et en fait, c'est un livre historique, parce que tu prends à la fois des lieux différents et des dates différentes.
Alors, les lieux différents, c'est toujours sur Santiago. Santiago, ce qui était particulier, c'est qu'il y avait une grande place, la Plaza Italia, qui est la grande place... centrale de la ville, qui a été rebaptisée Plaza Dignidad, donc Place de la Dignité, où les gens se rassemblaient. Il y avait moins de manifestations de personnes qui bougeaient, mais c'était un rassemblement.
C'était l'occupation de la place.
Voilà. Mm-hmm. Ouais. Et donc moi, j'ai photographié entre octobre 2019 et mars 2020 tout ce qui se passait. Donc à la fois les premières lignes, ce qu'on appelle les premières lignes, c'est les personnes qui affrontaient la police, du coup, avec des pierres, avec des boucliers, enfin voilà. Mm-hmm. Et à la fois aussi...
La police voulait vider la place, quoi.
Ah oui, oui. Donc répression policière impressionnante, beaucoup de gaz lacrymogène. Et du coup, ces personnes-là permettaient en fait de maintenir la police à certains endroits pour pas que la police puisse rentrer sur la place. Et pour que sur la place, les gens puissent manifester tranquillement.
Et c'est là où on voit qu'il y a des revendications féministes, des revendications transgenres.
Oui.
Il y a tout, les gens peuvent s'exprimer.
Ouais. Et beaucoup d'artistes.
Mais
beaucoup
ça, on s'aperçoit que c'est quand même assez mondial, hein, qu'à chaque fois, l'occupation d'une place a permis... après, les résultats, hélas, ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs des manifestants. Mm. Mais c'est intéressant que les gens sont tout à fait capables de s'auto-organiser...
Ah oui, tout à fait. Bah, les street medics, les personnes qui soignaient du coup les blessés, c'était que des volontaires en fait, des étudiants en médecine qui se regroupaient sur Santiago. Il y avait beaucoup d'endroits où on savait qu'à tel endroit, il y avait des médecins. S'il y avait des blessés quelque part, il fallait les emmener là-bas. Ah oui, oui. Il n'y avait pas de leader, hein. C'était vraiment...
Oui, c'était pas... Et même à La Serena, par rapport à... On a réussi à s'organiser assez rapidement. Il y avait les personnes qui observaient. Ce n'étaient pas des personnes institutionnelles de droits de l'homme. Qui, eux, observaient, qui prenaient photos, qui prenaient en charge après les personnes qui étaient arrêtées pour aller les faire sortir. Il y avait aussi les personnes qui, avec les lacrymos, qui te mettaient du pchit-pchit.
Du spray pour pouvoir nettoyer un peu les yeux.
Voilà, les yeux. Il y avait les premières lignes aussi. Il y avait de tout, quoi. Et c'est l'organisation civile.
Et dans tous ces manifestants, parce que vous avez parlé tout à l'heure de parité homme-femme, mais aussi des autochtones.
Oui.
Donc, est-ce qu'ils étaient présents dans ces manifs? Oui. Parce qu'ils habitent les grandes villes aussi, ils sont là.
Oui, alors.
Parce qu'on a souvent entendu parler de leurs revendications, surtout pour lutter contre des projets souvent de mines, pour aller chercher les métaux rares qui sont tous sur la cordillère des Andes et qui nous permettent d'avoir des téléphones, etc. Quoi.
Bien sûr.
Donc, on a entendu parler d'eux, mais on les voit loin des villes. Alors, ils étaient là.
Oui, ils étaient là. Même, bah, après, ça va dépendre. C'est plutôt en région qu'on va plus les voir que dans la capitale. D'accord. Dans la capitale, ils y sont. Mais je veux dire, si les régions, elles sont plus marquées. Bon, nous, à La Serena, il y a une grosse communauté de Diaguites. De Diaguitas.
Diaguitas.
Diaguites.
Dialite.
C'est une ethnie. Voilà, oui, c'est un peuple de cette région-là.
Une ethnie.
Oui, oui. C'est une ethnie. Oui, excusez.
Oui,
Et en fait, on a rebaptisé une avenue qui s'appelle Francisco Aguirre. On l'a rebaptisé Diaguite. Et on avait mis en bas de l'avenue parce qu'il y a comme une grosse autoroute qui sépare La Serena, qui est c'est une ville balnéaire. On avait fait tomber. Je dis on parce que c'est. J'y étais peut-être j'y étais pas. Hein. Mais il y a là une statue qui est justement de Francisco Aguirre. Et là, à la place, il y a eu une femme, la Melinka, qui a été mise dessus. Qui avait été fait. C'est une zone de sécheresse. Hein. C'est-à-dire qui a été fait avec un papier mâché très grand. Et en fait, elle a pu rester juste 2 jours parce que justement, les opposés, ceux qui sont contre les ethnies, l'ont brûlée. Mm. Donc voilà. Donc ça, ils font partie vraiment de nous. Et même à La Serena, sur la place, on l'a repeint et on a mis plein de symboles. Ben, il y a une photo justement qui montre les symboles des Diaguitas.
Donc on va vous inviter à venir voir cette exposition. Alors tout le mois d'octobre, mais jusqu'au 21, 22, 23, parce qu'après il y a une autre exposition.
31 octobre, non ?
Il y a une autre exposition dans la dernière semaine d'octobre.
D'accord.
Donc on vous bouscule un peu, mais en espérant qu'on vous reviendrez.
Venez maintenant.
Voilà. Et donc c'est Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril. Actuellement c'est le vernissage. Vous avez le temps de venir. Il va y avoir une animation musicale.
Oui.
Et donc on vous attend au 40 rue Alfred Duméril. Et sinon, eh ben, tout le mois d'octobre, vous pouvez passer voir cette expo de photos et voir des gens qui bougent. Et ça fait du bien. Oui.
Et aussi pour le livre, c'est auto-édition. Donc ça, il faut le préciser parce que c'est pas un livre, c'est elle-même qui l'a.
C'est tout auto-géré.
Voilà.
Mais j'ai vu qu'il y avait un éditeur qui t'avait aidé quand même au choix.
Alors quand on parle d'éditeur, en fait, en espagnol, c'est les personnes qui aident à choisir les photos.
Oui.
À composer.
C'est pas l'éditeur de livre.
Non,
d'accord. Ouais, okay. Je l'ai vu, donc j'avais cru que c'était...
Voilà, donc ça serait aussi pour appuyer, pour aider le travail de Sabine.
Merci.
Le petit livre.
Vous avez des contacts pour aider à la lutte ou pour...
Ou qu'est-ce qu'on peut aller voir sur Internet pour en savoir plus? Ou est-ce qu'il y a des sites?
Alors, il y a des collectifs.
On n'a pas fait de site.
Non, on n'a pas fait de site pour l'exposition, voilà. Mais il y a un collectif d'anciens prisonniers politiques en France qui est important, qui est surtout à Paris, mais je pense aussi...
Je suis membre d'un parti, même si j'ai fait beaucoup d'organisations sociales. On a un groupe qui s'appelle A Prueba Dignidad, qui est avec le Parti communiste chilien. Je ne sais pas après, mais par rapport à l'expo, tout ça, en fait, c'est surtout se renseigner sur ce qui se passe au Chili, je crois, que ce qui est important. Nous, on est des messagers, quoi. Donc, après, par rapport aux intérêts des différentes personnes, voilà. Et après, il va y avoir des permanences ici. Donc, si vous voulez venir poser des questions, il n'y a pas de souci.
Surtout que c'est important d'avoir les traces photographiques, justement, de ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas dire que les médias aient beaucoup répercuté toute cette lutte qui dure depuis plus de 2 ans, 3 ans, quoi. Merci beaucoup, 3 ans. Merci, Aloé. Merci, Sabine.
Merci beaucoup.
Et Marie-Madeleine et Fabien. À la technique. C'était donc le premier vendredi du mois, le vernissage sur Canal Sud 92.2. Ciao.
Merci.
Merci beaucoup.